Le Club des idées sur France Inter en compagnie d'Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro, de Laurent Geoffrin, directeur de Libération, et de Laurence Luret de France Inter. Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Vous avez décidé de parler du crépuscule de la France d'en haut, c'est le livre de Christophe Guilly.
Oui Patricia, voici un livre décapant qui ne va pas laisser indifférents nos auditeurs. Alors son auteur, Christophe Guilly, est un géographe, auteur notamment de la France périphérique, qui avait déjà créé la polémique il y a un an. Il récidive avec ce nouvel essai dans lequel il explique que la bourgeoisie d'aujourd'hui, qu'elle vote à droite ou à gauche, tout en célébrant le discours républicain, la mixité sociale et le respect de l'autre, profite des bienfaits de la mondialisation, chasse, selon lui, hors des métropoles les classes populaires et les relègue dans ce qu'il appelle la France périphérique, celle qui ne fait plus partie du projet économique, celle qui ne se sent plus représentée par la classe politique, les médias ou les syndicats. Laurent Geoffrin, Christophe Guilly a une formule, il fait allusion aux Rougon-Macquart, les personnages du roman de Zola, La Curée, dépeignant l'avidité de la bourgeoisie au XIXe siècle pour dire la nouvelle bourgeoisie d'aujourd'hui, c'est les Rougon-Macquart déguisés en hipsters, c'est-à-dire les nouveaux bobos. Vous en pensez quoi ?
Je pense qu'il y a deux choses. Il met le doigt sur un problème qu'on connaît tous, c'est que la gauche, pour faire large, c'est coupée d'une grande partie des couches populaires, pas entièrement, mais elle s'est quand même coupée du peuple, comme on dit. Et donc ça lui pose un problème à la fois moral, politique et même électoral, si on regarde les résultats. C'est vrai que si on prend l'électorat du Parti Socialiste, par exemple, il est plus fort dans les centres-villes que dans les banlieues, et encore plus fort dans les métropoles au sens large que dans les petites villes ou dans les campagnes. Donc ça, là-dessus, c'est incontestable. Après, il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de méthode, apparemment. En tout cas, moi, je suis pas géographe, je suis pas agrégé de géographie, mais je lis que beaucoup de géographes contestent la simplification qu'il fait. Vous savez, parce qu'il distingue, il y a trois groupes. Il y a les bourgeois au centre-ville, il y a les immigrés dans les banlieues, il y a les pauvres déclassés ailleurs, dans les petites villes ou loin dans les banlieues, etc. Et beaucoup de géographes disent, mais c'est pas vrai, il y a des gens en centre-ville qui sont pas très riches, il y a des gens dans les campagnes qui sont tout à fait modernes et qui profitent de la mondialisation, etc. Bon, les gens trouvent que c'est simplificateur et simpliste. Et puis il y a un problème politique sur l'utilisation du mot « bobo ». Pourquoi ?
Ah, bobo, parce que bourgeois bohème. Pas,
ça. Non, ça existe, bien sûr. On peut me classer même moi dans les bobos, si vous fait plaisir.
Qui aurait cette idée ? Hipster, non ?
Mais vous, avec pas hipster.
Pas du tout, non,
Martin,
non.
Pas bobo du tout, non ?
Pas bobo du tout.
Ah, d'accord. Oui, que c'est un concept un peu flou. Et si vous prenez mais j'ai beaucoup parlé. Je vais laisser Brézé parler,
voilà.
je réponds
alors,
après. Hein.
Alexis Brézé.
Non, mais je pense que
je suis quand même fair play. Hein.
Bon, d'abord, je pense qu'il y a un diagnostic qui est absolument passionnant. Ça fait longtemps qu'il le dresse, hein, ce diagnostic. Ça fait en fait depuis 2010, c'était les fractures françaises.
Oui.
Et son problème, c'est pas tant la gauche, même si c'est lui un homme de gauche, c'est un géographe de formation marxiste, c'est pas tant la gauche que la mondialisation. Il dit c'est la mondialisation économique qui crée une nouvelle organisation de notre société, avec deux groupes qui sont plus les capitalistes et les prolétaires, qui sont plus la droite et la gauche, qui sont pas les Français et les étrangers, qui sont ceux qui profitent de la mondialisation et ceux qui souffrent de la mondialisation. Mon sentiment, c'est que c'est un diagnostic qui est parfaitement juste. Il est plus subtil que ce que pouvait dire Laurent tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, il y a une France périphérique d'un certain nombre de villes moyennes, mais il y a évidemment des gens riches dans ces villes-là et qui profitent de la mondialisation. En gros, les gens des centres-villes et des grands centres urbains sont des gens qui profitent, mais il y a aussi des gens... Donc, il n'est pas caricatural à ce point-là.
Oui, mais il est très polémique, donc du coup, c'est caricature un peu son propos.
Il superpose un clivage social, une question de revenus, un clivage géographique, où vivent les gens, un clivage éducatif et culturel, l'accès à l'éducation, et puis un clivage politique... au fond, cette France exclue, cette France périphérique, il dit, elle vote de plus en plus Front National et Mélenchon, elle est en désaffiliation par rapport aux grands partis. De ce point de vue, le diagnostic me paraît absolument juste.
Oui, mais...
Et il y rajoute, et ça c'est nouveau dans sa pensée, une critique presque satirique de cette nouvelle bourgeoisie, les bobos, dont il dit finalement ils sont pires que l'ancienne bourgeoisie des Rougon-Macquart, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire la morale, ils n'arrêtent pas de dire que la mondialisation c'est formidable, que le vivre en ville c'est formidable, mais eux qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben ils vivent dans leur quartier. Ils mettent leurs enfants dans les bonnes écoles et ils font bien attention que ce soit des écoles très privilégiées. Il dit donc, il dénonce l'hypocrisie de cette nouvelle bourgeoisie.
Laurent Geoffrin.
Alors, je reviens sur le concept de bobo. Vous prenez un étudiant ou un directeur d'école, par exemple, qui habite dans Paris, dans le 18e arrondissement, au hasard, le directeur d'école en question, il va gagner quoi, 2000 euros. Et alors, il est désigné par Guy Louis comme un horrible bobo, un exploiteur du peuple, etc. Surtout s'il a des, il a le malheur d'avoir des opinions progressistes et de, par exemple, de militer dans une association antiraciste. Alors là, c'est l'horreur absolue, quoi. Mais alors, le financier qui habite, lui, dans le, je sais pas, le 8e ou dans le 7e, alors là, on n'en parle plus. La bourgeoisie classique a disparu. C'est elle qui est riche, en fait, parce que la plupart de ces classes moyennes de salariés qu'on désigne sous le terme de bobos, qui est commode, qui est un terme de magazine, en fait, qui n'est pas un terme sociologique. Eux, ils gagnent un salaire assez moyen. Et alors, c'est eux les exploiteurs. Et les autres, qui sont les vrais riches, alors eux, ils ont disparu des radars. C'est un peu
furieux. Effectivement, il a des développements très intéressants pour dire le problème pour la France périphérique et des exclus, ça n'est pas les vrais riches, parce que, après tout, c'est autre chose. Ce qui les exaspère, c'est le discours. C'est pas le niveau de revenu, c'est le discours moralisateur.
Alors, je vais venir
des
sur
élites
le discours,
qui habitent dans les grands centres urbains, oui. Dont
mais
les enfants font bonnes écoles,
on est dans la polémique politique,
dont les enfants font les bons stages, qui ont des bons emplois et qui après disent mais la mondialisation c'est formidable, l'Europe c'est formidable. Ils disent les gens de la France périphérique, c'est pas tant une question de revenu. Ils sont écartés de tout ce qui est l'avenir. Ils disent n'ont pas de perspective de progression sociale pour eux et pour leurs enfants. Et ils sont exaspérés, dit-il, d'une autre chose. Oui, c'est finalement que l'aide public se déverse essentiellement sur les quartiers immigrés. Ils disent, nous, on n'a rien, parce qu'on vit à Agen, à Guéret, à Montauban, on n'a rien. En tout cas, c'est sa démonstration à lui. Elle explique quand même beaucoup de choses. Le Front National, le Brexit, Trump, tout ça, ça s'intègre dans ce cadre-là.
Regardez, alors, la région Paris-Île-de-France, qui est la grande région la plus riche, elle produit beaucoup plus qu'elle ne consomme.
Oui, mais il y a beaucoup plus d'aide par personne sur la Seine-Saint-Denis que sur la Creuse.
Oui, bah peut-être parce qu'ils sont plus pauvres.
Et ben voilà.
Donc s'ils sont plus pauvres, il y a plus d'aide, c'est un peu logique, non ?
Mais non, justement, ils y sont pas plus pauvres. Il montre, il a donné des chiffres, il dit dans la Creuse, on a beaucoup moins d'aide, beaucoup moins de services sociaux, beaucoup moins de services publics.
Je crois que c'est contesté, parce que quand on prenait le PNB de l'Île-de-France... Attendez, j'ai pas terminé.
Mais à un moment donné, il faudra que ça se termine quand même, parce qu'il faut que Laurence Lurel puisse nous dire ce qu'elle pense.
Portent leur argent beaucoup plus que d'autres régions. Et ils subventionnent les autres régions. De la même manière, on parle des bobos. Mais qui paye les impôts en France, les impôts sur le revenu? C'est les classes moyennes salariées qui payent le plus d'impôts. Et à quoi servent ces impôts? À la solidarité, à faire marcher l'État-providence, etc. Donc on accuse des gens qui sont les principaux pourvoyeurs d'argent public pour financer les services publics d'être les responsables de la misère. C'est quand même gonflé comme thèse.
Une phrase,
je peux lui faire, Alexis, moi, un reproche. C'est qu'il absolutise le clivage entre ces deux catégories. C'est-à-dire que dans son livre, rien ne permet de réconcilier. Il tourne autour de l'idée de nation, parce qu'on voit bien que c'est la seule chose, mais il ne veut pas encore le dire, mais je pense que ce sera pour le prochain.
Je pense que Laurence Lurel va nous réconcilier.
Bon, moi, je vais essayer. Moi, ce livre me semble intéressant, alors pour plusieurs raisons. D'abord, pour son constat, notre société est de plus en plus inégalitaire, malgré un discours républicain omniprésent, consensuel sur le vivre ensemble. C'est ce qu'il appelle le mensonge de la société ouverte. Ensuite, il remet la question sociale et celle de la lutte des classes au centre du débat. Contrairement à la bourgeoisie traditionnelle, qui n'avait pas pu évacuer cette question, selon lui, la bourgeoisie du XXIe siècle, qu'elle vote à droite ou à gauche d'ailleurs, est parvenue à imposer l'idée d'une société sans intérêt de classe où le vivre ensemble est la norme. Or, pour Gulli, la lutte des classes n'a pas disparu, elle a désormais des soubassements sociaux et identitaires. Et puis enfin, pour moi, il aborde un point crucial pour notre démocratie, que faire d'un modèle mondialisé quand il n'intègre plus une partie de la population, pour rappel, 6 millions de chômeurs en France, 8,5 millions de pauvres, quand ce modèle n'est plus accepté par une part croissante des peuples et donc quand il n'est pas socialement durable, au sens où il permet de faire société, c'est d'ailleurs la même question qui est posée à l'Europe. Alors, faut-il ou non lire ce livre? Moi, je pense que oui, face à la polémique ou à ceux qui l'accusent de faire le jeu du Front National, ça vous permettra de vous faire votre propre opinion, Patricia.
Christophe Guilluy, Le crépuscule de la France d'en haut, aux éditions Flammarion. Merci Laurence Lurel, merci Alexis Brézé, merci Laurent Geoffrin et à la semaine prochaine.